Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Annie, on a eu de la belle température en septembre, mais c'est une température qui est un peu tardive, disons ça comme ça.
Oui, exactement. La semaine passée, on a eu chaud, même très chaud. Les températures, ils frôlaient les 30 degrés. Ça, c'est sans parler du facteur humidex. Puis je me disais, c'est peut-être un petit peu trop chaud pour la mi-septembre. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais mener une petite enquête. Donc, je me suis rendue sur le site d'Environnement Canada, puis je me suis dit, je vais comparer les températures de la semaine dernière avec celles de l'an passé aux mêmes dates pour voir est-ce que c'est normal qu'il fasse aussi chaud que ça à la mi-septembre. Pour vous, quelles sont vos hypothèses? Est-ce que vous avez trouvé ça normal qu'il fasse ça aussi chaud que ça la semaine dernière?
Non. Clairement pas.
Ça se prenait bien, mais effectivement, l'humidex en septembre, habituellement, c'est supposé être plus rare.
Puis, ben, vous avez raison. Les chiffres sont quand même assez impressionnants. Donc, si on commence avec lundi, il faisait un maximum de 27 degrés. Puis l'an passé, la température maximale était de 17,9 degrés. C'est quand même une différence de près de 10 degrés, là, ce qui est pas rien quand même. Mardi, la température maximale s'élevait à 26,9 degrés, alors que l'an passé, c'était à 21,7. Ça se ressemblait un petit peu plus. Mm-hmm. Mercredi, par contre, un maximum de 26,3, mais seulement 15,1 en 2023. Donc, plus de 10 degrés, là, encore une fois. 26 degrés le jeudi, uniquement 14,3 pour la même journée l'année dernière. Puis le vendredi, c'était 24,1 comparé à 17,1 pour 2023. Donc, on remarque quand même des bonnes différences de chaleur entre cette période-là de cette année puis celle de l'an passé. Donc, je me suis dit, avec les changements climatiques qui sont encore plus présents que jamais, je me demandais, les températures vont sûrement continuer encore plus à augmenter. Puis peut-être que le mois de septembre deviendra un mois d'été, qui sait. Donc, je me suis dit, je vais pousser ça encore plus loin. Puis avec les changements climatiques, c'est ça qui sont encore de plus en plus présents. Je me suis dit, j'allais aller vérifier, parce qu'avec les changements climatiques, les eaux vont monter. Donc, j'ai fait comme un petit top 5 des régions qui risquent de devenir inhabitables d'ici 2100 en raison de la montée des eaux. Donc, des régions qui vont tout simplement disparaître parce que l'océan va monter. Donc, on commence avec les Maldives, qui sont une destination de choix pour les touristes, qui pourraient malheureusement disparaître d'ici 2100. Ensuite, on a les Tuvalu, qui sont aussi un autre ensemble d'îles, qui sont situées, c'est ça, entre l'Australie et l'Amérique du Nord. Pas mal toutes les régions, c'est ça que je vais vous parler, sont situées dans l'océan Pacifique. Puis, c'est pas mal toutes des régions qui ont des super belles plages, que c'est paradisiaque, puis que malheureusement, à cause des changements climatiques, ils vont venir à disparaître. On a aussi les îles Marshall dans l'océan Pacifique, qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui risquent aussi de disparaître. On a Nauru, qui est aussi dans l'océan Pacifique, qui est encore une fois une destination prisée pour les amateurs de plongée. Puis, encore une fois, des plages de sable blanc, des eaux cristallines, des récifs coralliens. Puis, pour terminer, on a Kiribati dans l'océan Pacifique. Puis, moi, je veux savoir, vous, est-ce que vous faites quelque chose pour les changements climatiques? Est-ce que vous avez un petit peu adapté, peut-être, dans les dernières années, vos modes de vie?
Moi, je vais vous avouer, ces sujets-là me rendent tellement anxieuse. Ouais. Je sais pas si c'est un terme qui existe encore officiellement, mais comme l'éco-anxiété.
Oui, là, plus que jamais.
Genre, je le vis tellement, puis des fois, c'est comme, j'en pleure, là. Genre, je me couche le soir, puis je suis comme, oh non, genre, la planète, ben OK, elle va pas exploser, là, ce sera pas comme ça que ça va arriver, mais je suis comme, la planète va exploser, puis là, je me mets à pleurer parce que je suis comme, c'est pas si loin que ça.
Ouais, c'est ça.
Puis moi, je fais quand même, dans ma vie de tous les jours, des actions qui sont pour l'environnement. On devrait tous être pro-environnement, là, on va se dire, mais bref, qui sont, tu sais, recyclage, compost, poubelle, je le fais. Mais moi, ma crainte, puis un peu ma rage par rapport à ça, c'est le fait que c'est pas moi, petite étudiante de l'Université de Sherbrooke, qui va changer le sort de la planète. Puis on dirait que c'est ça qui m'apporte la frustration. T'sais, mais ça m'arrive aussi des fois que, comme, je veux jeter ma gomme, puis là, j'arrive pour l'acheter par terre, Puis là, je suis comme, non, la planète, elle serait pas contente, genre. Fait que là, je suis comme, non, je le fais pas, puis je m'en vais à la prochaine poubelle. Fait que je me pose ces questions-là quand même quotidiennement. Est-ce que je suis adepte des magasins en vrac, puis du sans plastique et tout? Pas du tout. Je mentirais si je disais que je fais vraiment toujours attention à 100%, mais je me pose quand même la question assez quotidiennement par rapport à ça, puis je fais quand même assez attention, mais je pense qu'on devrait tous le faire un peu plus. Mais c'est ça, j'ai comme un peu cette colère-là du fait que c'est pas individuel. J'ai comme l'impression que oui, si on se dit tous c'est pas individuel puis on le fait pas, ben il y a rien qui va changer. Ouais. Mais c'est vraiment plus les grosses entreprises, ben, tout ça qui ont un poids.
Oui,
t'sais.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est la somme de ces petites actions-là, veux pas. Le meilleur exemple que je peux te donner dans l'immédiat, c'est qu'on a toute une gourde sur la table. Ouais. On a chacun notre gourde versus, je reprends mon voyage en France, dans le menu du midi à la cafétéria à l'université, ça vient avec une bouteille d'eau. Bouteille d'eau plastique. Et moi, avec ma gourde, j'étais le seul de la gang à y aller la remplir une fois de temps en temps parce qu'eux, ils se faisaient donner une bouteille d'eau à chaque midi. Donc, c'est complètement... nous autres, on se disait comme, mais pourquoi?
Ouais.
Le plus récent, ce qui a été fait du côté de l'Europe, c'était que les bouchons en plastique avec les bouteilles de liqueur, avec les bouteilles d'eau, restent accrochés au goulot. Donc, c'est comme pour éviter que justement ces petits bouchons-là se ramassent dans l'eau, se ramassent dans les égouts et tout ça. Fait que c'est une petite mention, petit truc qui est fait, mais c'est évidemment pas, ça sera pas le petit bouchon en plastique qui va changer, mais les petits efforts, un après l'autre. Mais c'est sûr que ça nous avait quand même marqué de « Voici ta bouteille d'eau qui vient, qui est comprise avec ton sandwich. »
Ouais, et qui va au recyclage, j'ose espérer,
oui,
par
oui,
la
oui,
suite.
C'est, okay. on le souhaite. Mais oui, non, c'est vrai, il y avait comme les bacs de recyclage. Mais tu sais, c'était quand même la surprise de « Tiens, ta bouteille d'eau. » J'en voulais pas. Ben, c'était inclus. Ah, OK. Mais oui, voilà, donc c'est ça. Ben, sur la température, justement, je vais rebondir là-dessus parce que je me souvenais d'avoir vu un article là-dessus. Depuis la mi-2023, chaque mois de l'année est toujours plus la température est toujours plus chaude de mois en mois par rapport à l'année précédente. Donc, c'est toujours une moyenne d'environ 1 degré et des poussières de plus chaud mois après mois. Mais par rapport à ça, voilà, donc c'est entre autres les changements de température. Et c'est important de dire, parce qu'on parlait souvent de réchauffement climatique, mais c'est plus que des réchauffements climatiques, c'est vraiment des changements. Oui. C'est du dérèglement parce que justement, il fait plus chaud, ça fait en sorte, ben tu l'as dit, les niveaux de l'eau augmentent, donc ça fait en sorte que normalement, les courants maritimes et tout ça, ben, eux-mêmes sont complètement déréglés. Là, ça donne qu'on est dans une période une période de climat un peu plus chaud avec El Niño, le phénomène El Niño. Ça, c'est récurrent, mais que justement, il y a des températures peut-être un peu plus élevées à des périodes un peu moins habituelles, c'est sûr. Mais et ça, la question est intéressante comme tu l'avais posée parce que est-ce que ça veut dire que l'été va s'étendre jusqu'à la fin septembre et l'automne va se déplacer, elle, à l'octobre? Parce que, si on se souviendra, toutes les saisons sont un petit peu décalées aussi. Ah, ben oui. Le printemps, ça a pris du temps avant qu'il recommence à faire chaud cet hiver. Fait que c'est tout ça, c'est cette espèce de décalage.
Surtout qu'on n'a pas eu de neige quasiment de l'hiver.
Il n'y en a pas eu beaucoup aussi en Estrie.
On a eu quasiment la quantité totale de neige qu'on l'a eu. On l'a eu en comme une journée à la fin.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai, ça avait comme été tout décalé. Mais c'est sûr que dans d'autres régions, c'est sûr, plus on monte vers le nord, il y en a un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'en Estrie, Montréal...
D'habitude, en Estrie, il y en a beaucoup, la neige.
Ça dépend des secteurs, mais c'est vrai que normalement, il y en a un petit peu plus qu'on a. Là, c'était vert pour Noël, disons ça comme ça. Excellent. Ben, en fait, continue de faire attention. Je pense que c'est ça qu'on peut se dire. Et puis, ça viendra peut-être, y aura-t-il enfin une solution un moment donné, mais bon, faut faire attention à notre planète. On en a juste une, on n'en a pas d'autre. C'est cliché, mais malheureusement,
mais
c'est la réalité quand même. On n'aura pas 30 chances non plus après ça. Donc, voilà pour ça. Merci, Annie.